1, 2, 3, sí señor.
Libre cours.
Libre cours ?
Libre cours.
Libre cours.
Puis je sais qu'il y a des règles à la radio, ah, il faut pas, pipim, papin.
Non, c'est pas une radio commerciale, nous.
Voilà.
Là, on devoit un coup pour.
Un coup pour toi.
Un coup pour toi et un deuxième coup pour.
Tu veux que je la refasse une fois ?
Et tu sais ce qui est la base ?
Non. Tranquille.
Si. Moi, je sais, vous avez la haine contre moi, vous me détestez.
Pourquoi avoir répondu positivement à la proposition de participer à la programmation de la radio couvrant le festival Les Suds à Arles ?
L'idée d'avoir une part de soi qui passe les murs n'est pas rien. Quel détenu n'a pas eu un jour ou l'autre l'idée de s'évader ? Du 9 au 15 juillet, c'est une évasion partielle qui nous est proposée. Via les ondes, nos mots, notre voix passant les hauts murs, c'est pas si mal. Puis cette expérience permet de concrétiser une idée qui nous est chère, celle de créer un lien entre notre monde et le vôtre, un pont entre la prison et la société dite libre. Nous voudrions que durant ces quelques jours de retransmission, la communauté des détenus soit au cœur de la fête, non comme témoignage de personnes interdites de fête, mais comme présence de personnes appelées à participer un jour à cette fête. Enfin, nous voudrions profiter de l'occasion qui nous est donnée de nous exprimer pour vous parler de notre univers, celui de la prison. Ceci sans esprit polémique, sans virulence ni agressivité. Juste vous parler de nos existences, témoigner de notre quotidien. Un quotidien qui, vous le verrez, n'est pas dénué de pointes d'humour et de finesse, même si, bien sûr, le gris et le sombre le dominent. Nous espérons que cette rencontre via les ondes aidera nombre d'auditeurs, après avoir ouvert les oreilles, à ouvrir leur cœur à la question carcérale.
J'ai une petite question à poser à M. Gabi Muesca, qui demain matin est libérable. Depuis 17 ans de prison, il lasse la prison française. Bon, et Gabi, on se connaît depuis un an. Et nous, ça fait un an que tu es arrivé ici dans la maison centrale de Arles. On a fait beaucoup de choses ensemble, tous les groupes qu'on a engagés culturellement. Bon, on a abouti à quelque chose. La présence de cette radio, c'est déjà quelque chose. Tu as apporté beaucoup de choses pendant toute ta détention dans chaque prison française. Ici même, tu as apporté beaucoup de choses. Tu as fait prendre une conscience politique à certains détenus. Je te pose la question, qu'est-ce que tu mènes avec toi en sortant, à part la correspondance et les petites choses personnelles?
J'ai deux sortes de choses que j'apporte avec moi. D'abord quelque chose de très matériel et évidemment des choses qui sont immatérielles. Pour ce qui est du matériel, je suis persuadé que malheureusement, un détenu, lorsqu'il sort de prison, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de tourner la page et d'oublier par là où il est passé. Et je ne veux pas oublier, je ne veux pas oublier ces 17 années de prison. Et comme je sais qu'évidemment, là, dans la nature humaine, il y a ce fait-là de vouloir absolument oublier, je pense que c'est quelque chose de naturel, quelque part. Mais j'ai cassé un morceau de mur de la prison... Et un morceau de béton que j'apporterai avec moi. Bon, c'est un petit qui fait 3-4 cm carrés. Et je l'apporterai avec moi et je le mettrai bien en évidence là où je serai, là où je vivrai, pour ne jamais oublier, pour avoir ce morceau de pierre. À part ça, évidemment, je partirai d'ici, de la prison, avec des sentiments très, très divers. La joie, évidemment, de retrouver la liberté, mais là n'est pas le principal. Pour moi, et je le vis de façon assez dure en ce moment, c'est de laisser autant d'hommes derrière moi, en prison. J'ai vu une certaine évolution du monde carcéral en France. Beaucoup de gens seraient tentés de penser que la prison devient plus facile à vivre, du fait qu'on puisse avoir la télé, qu'on puisse avoir des activités culturelles de temps à autre, qu'on puisse acheter pas mal de produits d'alimentation par exemple, ou avoir le frigo comme c'est le cas à Arles. Mais le problème est que ces réalités-là cachent une autre réalité qui est que de plus en plus la population pénale, est composée de gens qui ont beaucoup de problèmes psychologiques, des gens qui sont en rupture de plus en plus importante avec la société. Et cette cohabitation dans des murs avec ces gens si différents, cohabitation forcée, est une véritable épreuve. Et je pense aujourd'hui beaucoup à ces garçons que je laisse derrière moi et qui vont encore avoir à vivre des mois, des années durant, parfois même plus de 10 ans encore, dans ce genre de réalité humaine qui est extrêmement difficile. J'ai peur de voir beaucoup de gens qui aujourd'hui ont la tête sur les épaules, ont su résister jusqu'à présent. J'ai peur de les voir un jour s'effondrer. Chose que j'ai déjà vue de la part de certains détenus, des gens qui ont été des guerriers, des années durant en prison, qui ont résisté, mais qui un jour ou l'autre, sans qu'on sache trop pourquoi, se sont affaissés. Parce que la prison est un peu comme un océan qui attaque la falaise. L'océan, les remous attaquent tous les jours, tous les jours. C'est toujours là, c'est toujours là. Et puis un jour, vous avez des mètres cubes de falaise qui tombent. Vous ne savez pas pourquoi c'est tel jour, pourquoi ce n'était pas la veille, pourquoi pas le lendemain. Mais un jour, ça s'effondre. Et il y a beaucoup de détenus qui se trouvent dans cette position de falaise, qui se tiennent droit, debout, des années durant, et qui un jour ou l'autre s'effondrent. Et j'ai peur, évidemment. Quand je salue aujourd'hui, depuis quelques jours, je salue des détenus, je leur serre la main, je les embrasse, on a des rapports fraternels, mais j'ai peur pour ces gens-là, pour certains d'entre eux. J'ai peur qu'un jour, ils ne fassent plus partie, j'allais dire, de la famille humaine, parce qu'ils auront perdu une partie essentielle de leur humanité en prison.
C'est quoi la digue qu'il faut ériger contre cet océan, la digue?
Mais j'allais dire que c'est difficile. Bon, moi, je suis un abolitionniste. Je suis pour la fin de la prison, comme certains d'entre nous. Mais la réalité de notre monde actuel ne permet pas qu'on se passe des services, entre guillemets, de la prison. Mais je suis persuadé que dans les décennies ou siècles à venir, nous construirons une société démunie de prison. Mais pour l'instant, c'est à l'évidence. Il faut un sursaut d'humanité dans la gestion des prisons et arrêter de considérer l'homme prisonnier, quand je dis l'homme, c'est homme et femme évidemment, l'homme prisonnier est considéré comme une bête.
Je voudrais lire ce texte, c'est un poème. Et je vais le dédier à notre ami Gabi qui vient de sortir. Et j'écris ce texte-là. Au Beaumet. Je ne connaissais pas encore Gabi, mais je trouve que Gabi entre dans ce test-là parce que un peu tout le monde se peut reconnaître dedans. J'écris une pensée que lui l'a beaucoup aimée parce que je vous lise la pensée. J'ai tant aimé les causes perdues que je me suis même pris pour l'une d'elles. Bon, Gabi aime beaucoup cette pensée-là parce que où il y a la cause perdue, il y a la voix du peuple, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui. Et cherchent de survivre à quelque chose. Et je répète, je le dédie à Gabi Muesca, qui vient de sortir, parce que je sens encore sa présence chez nous. Bon, heureusement, il est loin d'ici, de la prison, de ses murs, mais sa présence est toujours là. Je vais lire le texte. Cafard. Dans mes 5 mètres sur 3, je vis en concubinage avec quelques cafards. Je vis dans l'hygiène et j'aime la propreté, mais ils sont là. Leur trajectoire géométrique ne m'importune pas. Leur ascension des parois ne m'affole pas. Aucune sensation de panique. Phobie, parce qu'ils sont porteurs de maladies, vecteurs d'infection. Voilà bien leur seule utilité. Aucune odeur, aucune pointeur. Leur langue n'est ni travestie ni idiote, ni fausseté ni hypocrisie. Ni jalousie, ni envie. Ils ne vous font pas d'illusions. Ils ne vivent ni d'amour intéressé, ni d'amitié mercenaire. Que soient noirs, jaunes ou marrons, ils remuent leurs petites cornes, qui sont loin, heureusement, de l'humanité. Celles qui ont les vraies cornes, eux, n'ont rien d'humain. Ce sont seulement des petits êtres futiles qui s'illonnent même mûrs.
dans une incessante recherche de nourriture. Ils vivent dans le placard. Je suis au placard avec mes cafards. L'homme s'éloigne des planètes, sémant haine et rancœur, labourant la tyrannie et ramassant son sang. Qui est le véritable cafard? Homme, ne sens-tu pas l'odeur de ta conscience? Les maîtres de la planète devraient peut-être adopter des cafards sous leur étendard.
Je voudrais que tu racontes l'histoire. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est l'histoire quand tu m'as parlé du téléphone portable. Je voudrais que, si tu veux, raconter cette histoire. Tous les gens étaient avec leur portable.
Ah, mais les gens, ils marchent avec leur portable. Bon. Ils sont dans la rue.
Ça raconte beaucoup. Ça raconte beaucoup. Comment on vit toujours.
Ils te voient pas, ils te calculent pas. Presque, ils vont te dire, attends, tu me fais chier, tu fais du bruit pendant que je parle.
Tu perds ton humanité.
On a perdu les amis. On a perdu. Avant, tu marchais dans la rue avec ton ami, ton petit ami.
C'est le lien de la communication qui se perd. Moi, j'étais tourné dans la rue de voir les gens, ils te regardent pas dans les yeux. Les gens ne te regardent plus dans les yeux dans la rue.
Il y en a un qui annonce l'autre de la définition. Vas-y, commence.
Maison centrale.
Grande école de longue durée.
Abécédaire.
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 Médecin.
Initialement chargé de soigner ses patients, le médecin d'aujourd'hui s'attache surtout à assoupir leurs angoisses.
Menottes.
Instrument intermédiaire permettant aux gardiens et aux détenus de se serrer la pince.
J'ai connu beaucoup de menottes extrêmement intéressantes. Ce sont les objets les plus intelligents, imprévisibles, les plus généreux dans les relations humaines, avec ceux qui voulaient mettre.
Objets très attachants.
Vilains bijoux, mauvaise qualité, trop voyants et de mauvais effets, à tel point que depuis que certains les portent, toute représentation graphique en est interdite. Jusqu'où va la coquetterie?
Mitard.
Mi-oubliette, mi-laminoir.
Un mytho au mitard, pas plus tard que ce tantôt, mata un maton qui le matait.
Mur.
Quand l'homme est plus que mur, les murs tombent.
Non, mais l'aime.
No man's land.
Ah bon, je ne connais pas l'anglais, moi. Oh.
Zone de non-être et de non-droit, puisqu'un homme peut y être abattu sans sommation.
Nullité des procédures.
La prime au retort.
Quand on procédure, la nullité n'est pas sûre.
Amené par la défense pour les faibles, par l'accusation pour les puissants. Très utilisé dès lors qu'un procès touche un membre du monde politique.
Œilleton.
Nombril ouvert sur l'intimité du prisonnier. L'œilleton laisse parfois filtrer un regard inquisiteur.
Ce qu'on y voit ne donne qu'une image incomplète de ce qu'on est, pour la raison que les yeux ne s'animent que lorsqu'on est plus haut ou plus bas de soi-même.
Regard cyclopéen sur ce que la société ne veut pas voir.
Quand je mange, quand je chie, quand je me masturbe, quand je dors, toujours derrière moi, je rêve d'être Ulysse.
OIP, Observatoire International des Prisons.
Un œilleton sur la porte du ministère de la Justice.
Parloir,
sorte de dégorgeoir où l'être humain empli de mots peut le déverser.
Peine de mort.
La peine dont l'humanité sera la plus inconsolable. Ceux qui se sont arrogés le droit de la prononcer espèrent naïvement et vaniteusement que cela leur confère l'immortalité.
Une vie de peine vaut-elle une peine de mort?
Permission.
Omission du libre arbitre.
Mission de l'illusion. C'est le seul mot qui confère un sens au temps extramuros. C'est le temps vécu, vécu cependant par le truchement d'une immense illusion, puisqu'il se dissipe sitôt le silence rétabli. C'est un temps éphémère, en somme un paradoxe du mot liberté. Cette expérience exige d'être indéfiniment renouvelée pour se perpétuer. Proche de l'expérience temporelle dont on perd la trace dès qu'on réintègre le quotidien.
Un temps, oasis de bonheur dans une éternité, océan de malheur.
Rendez-vous manqué ou rencontre avec Dieu. Je crois pas aux coïncidences, je disais, et le fait que vous soyez là, que toi tu sois là, bon aujourd'hui ça tombe sur toi, mais que vous soyez là, vous, Trans-FM, Trans-Radio, la semaine où Gabi part, ben, je sais pas, ça a quelque chose d'emblématique qui enfin, comme si c'était, c'est peut-être la fin pour lui de quelque chose, c'est peut-être le début d'autre chose pour nous, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui restent, mais qui puisse exprimer, qui puisse le jour où il est là, 17 ans après, le jour où il sort, vous êtes là. Je trouve ça bien et il n'y a pas de coïncidence quoi. À croire que il pouvait pas sortir une semaine avant, il pouvait pas sortir une semaine après. Il sort quand vous êtes là. Il peut exprimer, fait tout ce qu'il a pu exprimer durant ces quelques jours que vous avez passé là. Et moi j'aime bien ça et j'en profite pour dire à Gabi, il est là. Moi, je suis heureux de le voir sortir. On s'est connus en 93. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu as fait ta croisée tellement de monde. On s'est connus il y a 8 ans au quartier des PS à Fresnes. Je ne sais pas si tu te rappelles, on n'avait passé que 2, 3 ou 4 semaines ensemble parce qu'on était. Tu sais comment ça se passe dans ces quartiers. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Enfin, je m'en rappelle comme si c'était hier. Oui, il rigole parce qu'il me dit que tu avais des cheveux. Oui. Mais moi, je me rappelle de ça parce que je me rappelle de ces moments-là, surtout quand c'est assez difficile. Et être aujourd'hui, là, à quelques heures avec lui, à côté de lui, à quelques heures de sa sortie, l'avoir retrouvé il y a un an, alors que bon, il se perd de vue, on se revoit, on se retrouve. Et je peux dire que c'est peut-être un des garçons dont je suis le plus heureux de voir la sortie.
En cette année 2001, les radios libres de la bande FM fêtent leurs 20 ans. Bien peu seront ceux qui fêteront cet anniversaire en ayant pleine conscience de l'importance qu'a représenté cette éclosion des fameuses radios libres sur les ondes. Les prisonniers, les plus anciens d'entre eux, font probablement partie de ces gens-là. En effet, il fallait voir au début des années 80 l'importance que représentait pour les détenus l'écoute des radios non soumises aux diktats de l'argent et de l'État. La télévision n'avait pas encore fait son entrée dans le monde carcéral. Écouter du Léo Ferré, des émissions où le politiquement correct n'était pas de mise, entendre la vie sous toutes ses formes, sans censure ni filtre, quel souffle de liberté. Les radios libres ont contribué à provoquer des prises de conscience chez bon nombre de prisonniers, pensant ainsi du statut de prisonnier social à celui de prisonnier sociopolitique. De la parole qui courait sur les ondes, la réflexion est née, puis s'en est parfois suivi l'action. L'action en prison est toujours une part de dignité retrouvée et donc de liberté reconquise. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer pour rendre hommage à tous ceux et celles qui, voilà 20 ans, ont participé à l'aventure des radios libres.
Voilà, je voulais parler un peu de Gabi, quoi. Dire ce que moi, j'ai observé sur Monsieur Gabi. Moi, ça va faire 7 ans que je suis en prison, quoi. Je suis assez jeune comparé à ceux qui sont ici. Est-ce que ce que je peux en tirer? Excusez-moi, vous n'êtes pas des vieillards, mais bon. Bon, ça fait 7 ans que je suis en cage, quoi. Et j'ai rarement eu l'occasion de croiser des gens intéressants. C'est-à-dire pour le mental. On a toujours croisé des gens qui sortent, bon, violence, comme moi je l'ai été. C'est-à-dire des cités, des trucs comme ça. Et grâce à Gabi, moi j'ai eu courage de franchir de cet obstacle qu'il y avait face à moi de dialoguer, de parler, de m'ouvrir. C'est pas facile, surtout de là où je viens, quoi. Et je tenais à le dire, quoi. Je l'en remercie. Et je l'apprécie beaucoup pour ce qu'il est, parce que pour moi, comme j'ai dit, je suis berbère. Je sais ce qu'il est. Il défend son origine, tout ça. Et moi, j'admire énormément ça, parce que j'ai rarement aussi l'occasion de croiser des gens qui sont comme ça. Ça veut dire tous les jours qu'il se lève, il est en train de lutter. Et même quand il sera dehors, il sera encore en train de lutter sur ça. Moi, ça m'encourage et ça me donne envie de voir demain et encore après-demain. Et je tiens à le remercier beaucoup et je lui souhaite bonne chance, bon courage. Pour ça, j'en doute pas. Je le sais parce qu'il est toujours calme. Ça, c'est une énigme. Il est toujours calme. Ça, je me demande. Moi, je dois en tirer le sens sur ça. Mais toujours calme, ouais. C'est une énigme. Et je tenais à remercier aussi les Suds pour tout, de m'avoir mis le micro devant la bouche, de m'avoir encouragé aussi à parler de tout ce qu'ils font. Et quand j'ai l'occasion de les écouter, le soir, je me fais un petit délire. Et je remercie toute l'équipe pour ce joli petit cadeau, là, t-shirt, que pour moi, c'est beaucoup. Ça paraît ridicule, c'est beaucoup, parce que ça fait longtemps qu'on ne m'a pas fait de cadeau. Donc, je remercie tout le monde et continuez à vous éclater sur la radio. Quoi. C'est bien. Et je serai encore là tant qu'il y a de l'air. Merci.
Si je dois donner un titre, j'aime bien écrire. Donc, si je dois donner un titre à la sortie de Gabi, je la titrerai « La libération d'une pensée ».
Et comment ça marche? Et comment ça se passe alors?
Qu'est-ce que c'est que le prétoire?
Le prétoire est le tribunal interne à la prison. C'est un lieu qui a fait l'objet de profonds remaniements ces derniers mois. En effet, jusqu'à présent, le détenu se trouvait face à un tribunal composé du directeur de l'établissement, un représentant du personnel surveillant et un cadre. Et le détenu, en fait, se trouvait sans moyen de défense. Il était un petit peu envoyé à l'abattoir dans ce pseudo-tribunal interne. Et depuis quelques mois, donc, il y a eu une modification de la réglementation en la matière. Le détenu peut être aidé par la présence d'un avocat ou de tout autre citoyen qui en demande à être membre, à être défenseur de détenus. Et donc les garanties et des droits sont beaucoup plus favorisés en détention depuis quelques temps. Et par exemple, au niveau national, on a remarqué que depuis l'entrée en matière de la nouvelle réglementation, il y a beaucoup moins de plaintes qui sont déposées contre des détenus, beaucoup moins d'incidents qui font l'objet d'un rapport, parce qu'évidemment, autrefois, sans garantie, pour un oui ou pour un non, on se trouvait dans le prétoire. Mais aujourd'hui, sachant qu'il y a un membre du barreau qui peut assister le détenu, les gens sont beaucoup plus prudents lorsqu'ils font des rapports d'incidents.
Et il faut rajouter quand même sur le prétoire, il faut quand même voir que la conséquence du prétoire, c'est la punition suprême, c'est le cachot. Il faut savoir qu'un jour de cachot, c'est deux jours de grâce en moins. C'est-à-dire que c'est une condamnation à de la prison, parce que ne pas toucher des grâces, c'est faire de la prison en plus. Donc c'était une façon qu'on avait de vous rallonger votre peine, parce qu'il ne faut pas oublier que lors des réquisitoires, au cours des procès, les procureurs, lorsqu'ils font le réquisitoire, qu'ils demandent une peine, tiennent toujours compte des remises de peine. Toujours.
Il y en a un qui annonce, l'autre dit la définition. Vas-y, commence.
O comme OIP, ou Observatoire International des Prisons.
Un œil de thon sur la porte du ministère de la Justice.
La chronique littéraire de Pascal, ce soir, Yvan Audouard.
Bon, j'ai donc jeté un œil à ce petit livre-là que tu m'as fait passer, Antonio, de Yvan Audouard, Les Pensées. Hein ? Je crois que tout le monde connaît Yvan Audouard maintenant, à Transradio, on l'entend.
C'est le parrain de Transradio. Hein.
Le parrain de Transradio, voilà. Alors évidemment, bon, ça m'a beaucoup amusé. Hein ? Je suis souvent d'accord avec ce que je lis. Et je dis souvent, ce qui veut dire pas toujours. Hein. Et il y a quelques petites pensées justement qui m'ont amené à certaines réflexions. Alors, je sais pas, genre je peux t'en prendre au hasard, par exemple. Dès la deuxième, on ne retient que ce qui vous échappe. Moi, je rajouterais, il ne faut jamais retenir ce qui vous échappe parce que ça peut vous brûler les mains et des fois le cœur. Tu vois, j'ai vu qu'il parlait pas mal de l'amour. Au début, j'étais un peu perplexe sur ses pensées amoureuses. Je trouvais ça limite misogyne, limite... Mais j'ai remarqué qu'après, il rattrape le coup en disant, je sais pas, j'arrivais plus à le retrouver, en disant, lorsque je suis amoureux, un truc de ce style-là, je renie tout ce que j'ai pu dire avant. Donc je crois que c'était surtout un aspect provocateur. Alors je crois que sur l'amour, il y a quelques trucs que j'ai relevés. Voilà, il faut avoir été amoureux au moins une fois dans sa vie, cela vous enlève pour toujours l'envie de recommencer. Je dirais que c'est le contraire, évidemment. Hein?
Tu peux nous en lire bon, enfin, quelques-uns aussi que tu as...
Ouais, voilà. En fait, de toute façon, je ne vais pas en rester à l'amour. Voilà, tomber amoureux, je ne sais pas si l'on peut tomber plus bas, mais on ne peut tomber de plus haut. Mais on ne peut tomber de plus haut quand on a cessé d'aimer. Voilà, c'est vrai, effectivement, le genre de pensée à laquelle j'adhère et qui sont le contraire de ce qu'il dit parfois, qui prennent des propos qui prennent des fois un aspect misogyne. Alors, il y en a certaines aussi que j'ai relevées. Les meilleures années de notre vie sont, quoi qu'il arrive, celles qui nous restent à vivre. Je crois que pour nous, les taulards, surtout quand on arrive à la fin, c'est assez vrai. Il y en a qui m'ont quand même un peu que j'ai trouvé, je t'en cherche une là, notamment sur la guerre, ah oui, attends, il y en a une, ce 14 juillet, je crois qu'elle est bonne à citer, tous les hommes naissent libres et égaux, mais ils n'ont pas tous droit à un enterrement de première classe. Alors là, je lui répondrai au cher ami Ivan, en fait, on n'en a rien à foutre, quoi, de l'enterrement, une fois qu'on est mort, on est mort. Ce qui est important, c'est la naissance, la différence entre naissance, première classe et deuxième classe, parce qu'il y en a qui naissent dans des cliniques à Neuilly, et il y en a qui continuent à vivre dans les bidonvilles. Donc, un autre, le capital de conneries dont disposent, on change de sujet, le capital de conneries dont disposent les êtres à leur naissance varie selon les individus, mais les chances de les faire fructifier sont égales pour tous. Là, j'ai mis « ah non », parce qu'il y a aussi des milieux à la con. Donc je ne pense pas que les chances de faire fructifier la connerie soient égales pour tous, parce qu'il y en a quand même qui naissent dans des milieux assez cons. Bon, je ne vais pas citer on ne va pas faire du racisme social ou. Donc je ne suis pas très d'accord avec lui. Non, tout le monde n'a pas la même chance de faire fructifier sa connerie, tu vois. Je suis persuadé qu'il y a des milieux où on a plus de chances de faire fructifier sa connerie que d'autres. Qu'est-ce qu'il y a aussi? J'en avais trouvé un sur la guerre, attends, qui me paraissait assez... Assez. Ah oui, là j'ai mis à méditer. Qui trompe-t-on quand on trompe la femme qu'on aime? Là j'ai mis à méditer. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, qui trompe-t-on quand on trompe la femme qu'on aime, hein? Je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent, qui se poseront la question. Alors il y en aurait plein d'autres, il fallait que je parle sur... Il y en aurait plein d'autres, mais je crois que j'ai pas mal monopolisé l'antenne, donc... Je vais m'arrêter là.
Ok, un petit mot à Ivan, ce serait quoi?
Un petit mot à Ivan, eh ben, je crois que j'aimerais bien passer un moment avec lui, quoi, une après-midi, une soirée. Et j'aime bien ses pensées, évidemment, parce qu'il y en a tout plein auxquels j'adore. Il y en a qui sont tordantes de rire. Celles sur lesquelles j'avais rien à dire, je ne les ai pas relevées, parce que pour dire celle-là elle est bien. Moi je conseillerais seulement d'acheter le livre, Ivan Audouard, les pensées au Cherche Midi éditeur, voilà, c'est tout. Mais c'était pas prévu.
C'était son agent ou quoi?
Non, c'est pas prévu. Mais j'adorerais rencontrer ce mec, quoi. J'adorerais rencontrer ce mec, pouvoir discuter avec lui, et je suis sûr que ça doit être tordant, parce qu'il a un regard sur la vie, sur la société, sur l'existence, sur les institutions, sur qui est assez... assez marrant et c'est un grand philosophe, quoi.
Et tu sais ce qui est la base?
Là où je tire.
Non.
Tranquille. Si. Reprends la phrase, parce que...
Reprends.
Oui, ça. Parce que ce qu'ils nous font subir est inhumain, c'est indigne.
Je connais sa sortie, hein. Vous voulez que je vous la raconte? Ouais. Bon, je connais sa sortie. Ce que je sais, c'est que je pense qu'il y avait des journalistes qui l'attendaient. Et il avait décidé de refuser de leur parler, parce que pendant 17 ans, ils l'ont oublié, ou quand ils ont parlé de lui, c'était pour lui casser du sucre, comme ils font toujours, puisqu'eux sont politiquement corrects. Donc Gabi, honnêtement, il a refusé de leur parler, il s'exprimera certainement plus tard. Par contre, sa sortie, il avait décidé comme il est, tout simplement. Il y avait son frère, je pense, qui l'attendait, avec l'épouse de son frère. Et ils avaient un rendez-vous avec Noncla Gabi, qui est missionnaire en Afrique. Ils avaient rendez-vous à Montpellier, où c'est qu'était organisé un petit recueillement entre deux familles.
Et je pense qu'après, ils allaient faire un petit repas de famille, et voilà. Et il allait rejoindre l'endroit où c'est qu'il allait rester un peu, quelque temps, en villégiature. Voilà, tout simplement.